Puis ça t'a laissé un célèbre petit peu, puis après ça, tout va bien, bien aller. Alors, je suis content d'être encore ici avec vous. Puis je vous dis honnêtement, de voir toute l'assemblée pleine comme ça, franchement, ça me touche autant pour les pasteurs ici que pour moi-même, parce que ça prouve une chose, c'est parce que vous aussi, vous aimez le Seigneur Jésus, vous aimez Dieu, puis vous voulez en savoir plus. Mais pas juste ça, vous êtes venus aussi pour l'adorer, l'exalter, l'élever. Et ça, alors, c'est ça, on peut pas demander plus que ça. On est vraiment heureux et content pour ça. Alors, pour ce qui est de ce matin, comme vous pouvez voir, il va y avoir des petites illustrations. Je pense que c'est pour nous aider peut-être à mieux visualiser, si on pourrait dire, les paroles qui vont être dites, et de pouvoir les intérioriser, parce que ça, c'est une partie importante. Quand on le comprend, c'est là qu'on peut le mettre en pratique. Le savoir des choses, si ça descend pas plus bas que le cerveau lui-même, alors ça change pas vraiment grand-chose. Alors, une chose importante à faire en tout premier lieu, c'est de lire le texte. Alors, on va aller dans Romains. Romains chapitre 8, et on va lire les versets 10 à 14. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la troisième partie de ce grand message, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Alors, comme on dit, je lui ai demandé de travailler un petit peu pour moi ce matin, avec il fait de son mieux, hein? C'est correct. Alors, lisons le texte, Romains 8, les versets 10 à 14. « Et si Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et filles de Dieu. » Alors, dans la première partie du message de cette série, on avait pris conscience de l'importance de vivre selon la grâce de Dieu en Jésus-Christ et non selon l'ancienne alliance de la loi. On avait vu ça dans Romains 7, les versets 14, aller jusqu'au chapitre 8, le verset 4. Dans la deuxième partie, nous avons considéré que pour pouvoir marcher selon l'Esprit et par l'Esprit, nous devons avoir expérimenté une réelle conversion et prendre la décision de lui obéir. On a vu ça dans Romains 8, les versets 5 à 9. Alors ce matin, nous regarderons une troisième partie qui nous montrera l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant dans le sujet, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Alors Père, on est ici devant toi ce matin. On est là parce qu'on t'aime, on aime Jésus ton Fils, on aime le Saint-Esprit. On sait que Jésus, avant de partir, nous a laissé une grande consolation, un autre consolateur du même type que Jésus, qui tu nous as envoyé, qui habite avec chacun de nous et qui nous conduit dans cette vie. Alors, Seigneur, ce matin, ce que nous voulons te demander, viens nous parler, Seigneur. Aide-nous à comprendre tous ces versets difficiles, ce sujet difficile. Nous, ce qu'on veut savoir ce matin, c'est comment vivre ça, Seigneur. Comment être victorieux avec l'action du Saint-Esprit en nous? Comment avoir des vies consacrées, sanctifiées et pieuses, Seigneur, avec le combat qui est dans notre être, ce côté de la chair qui veut prendre possession, qui veut l'emporter sur ce que l'Esprit nous a donné? Alors, Seigneur, ce matin, viens nous éclairer, explique-nous tout cela et amène-nous vraiment à intérioriser ce que tu vas nous enseigner et que pour nous ce matin, ça soit un nouvel élan, une nouvelle victoire, une nouvelle façon, Seigneur, de pouvoir être heureux dans notre vie, dans ce beau monde, avec toi, Seigneur, mais aussi avec tous ceux qui nous entourent. Alors, que ton nom soit béni ce matin. Amen. Alors, ce matin, on va regarder trois éléments. Trois éléments importants, je pense, qu'il faut retenir. Alors, le premier élément que je veux regarder avec vous, c'est dans le verset 10. Il dit ici, « Le corps est mort à cause du péché. » Du péché de qui? Alors, ici, il s'agit du péché d'Adam et Ève au tout début. Alors, on sait que quand Adam et Ève ont désobéi, par après, le péché s'est transmis de génération en génération et qui fait en sorte que notre corps, notre première nature, si on pourrait dire, pour bien comprendre, l'esprit, l'âme et le corps, ça fait toute partie du corps. Alors, cette première partie, là, qui est la chair, alors elle a été toute, assombrie par le mal et la rébellion contre Dieu et de vouloir être son propre Dieu, de vouloir gérer nos propres vies. Alors, on voit que le corps est mort à cause du péché. Mais par contre, on nous dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice en Jésus-Christ. Là, ici, on parle de l'esprit humain, on parle pas du Saint-Esprit. Vous savez, les traducteurs, quand ils mettent des majuscules à des places et tout cela, c'est pas dans le texte original. C'est juste pour que vous sachiez, parce que les manuscrits qu'on a, c'est tout avec des majuscules. Alors, c'est les traducteurs, quand ils font leur traduction, que c'est eux autres qui mettent des lettres majuscules ou ce que ils jugent que c'est important. Mais ici, c'est vraiment dans le contexte l'esprit humain. Mais l'esprit est vie à cause de la justice qui a été faite en Jésus-Christ. Alors, à cause de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour prendre notre défense et qui est vraiment la victime expiatoire pour nos péchés et notre souverain sacrificateur, alors, et le fait qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous régénérer, nous redonner une vie spirituelle avec Dieu, ce qu'on avait perdu au Jardin d'Éden. Alors là, l'Esprit est vie à cause de cette action. Puis je pense que c'est important pour chacun de nous de bien retenir ça, parce que le diable, lui, il va s'attaquer à vous sur ce point-là. Toujours de vouloir dire, « Oh, regarde ta vie, regarde, t'es pas victorieux dans ta vie chrétienne. Regarde, t'es pas plus que vainqueur. Tu vois donc pas que il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Tu vois donc pas que en réalité c'est pas vraiment vrai tout ça là. Mais soyez sûr et certain que qu'est-ce qui s'est passé là, c'est réellement passé dans la vie de chaque personne ici qui a vraiment cru, qui s'est vraiment repenti, qui a vraiment reçu le pardon de ses péchés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et qui en a fait vraiment son Seigneur et son Sauveur et qui marche avec lui tous les jours, soyez sûr et certain que l'ennemi, même s'il voudrait nous attaquer à ce niveau-là, ne l'écoutez pas. C'est un mensonge. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure à mon pasteur Luc, c'est que l'autre message qui va être apporté va traiter de notre identité en Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit. Ce qu'on va voir dans les versets 14 à 17. Je vous dis en passant, là. Ça va être l'autre message. Mais pour ce matin, celui qu'on parle, il est essentiel, je pense, pour connaître une paix. Une paix dans notre vie. Dans cette vie de combat, cette vie difficile, cette vie où ce que notre monde s'en va à la déchéance, où ce que notre monde est corrompu. On est rendu là. Puis, je vous dis, il faut pas haïr les gens. Il faut haïr le mal. Parce que si on haït les gens, on pense plus comme Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez? Dieu a tant aimé le monde dans toute sa méchanceté, sa cruauté et toutes ses méchancetés. Dieu a tant aimé le monde. Il a pas aimé le mal. Il a le mal en horreur. Mais il a aimé les gens. Dont moi, j'en ai fait partie et dont chacun de nous en a fait partie. Alors ça, c'est un point essentiel qu'il faut retenir. Une deuxième chose aussi, c'est au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il rendra aussi la vie à nos corps mortels et nous conduira. » Là, c'est moi qui paraphrase ici. Vous savez que on a parlé dans un des messages auparavant que on Quand on se convertit à Jésus-Christ, qu'on le reçoit vraiment comme le Seigneur, le Sauveur de notre vie, on reçoit comme cadeau le Saint-Esprit. Lui, son rôle à nous, quand il arrive en nous, il est là pour nous régénérer, nous redonner la vie avec Dieu, nous redonner une vie spirituelle avec Dieu. Et c'est là que toute l'aventure commence. Oui, ce qu'il fait, il vient nous régénérer, mais par après, il nous accompagne tous les jours de notre vie dans notre sanctification. Non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit, lui, est là de jour en jour pour nous transformer à l'image de Jésus de gloire en gloire. Le Saint-Esprit, il est toujours à l'action, mais on le voit pas avec nos yeux. On le constate seulement par les effets. Ou bien souvent, c'est les autres qui vont dire, « Hey, t'as bien changé, toi! » Surtout une personne, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qu'on s'est pas vu. « T'es plus le même, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? » Puis nous, ben non, ça, j'ai pas l'impression que j'ai changé tant que ça, tu sais. Mais par contre, effectivement, il y a un travail qui se fait de sanctification, et ça peut s'échelonner sur plusieurs années, jusqu'à notre mort, et jusqu'au jour où on va être dans l'éternité avec Dieu. Là, c'est là que tout va être terminé, ce chemin-là, parce que l'autre bord, il n'y aura plus de place pour le péché, il n'y aura plus de place pour la colère, la haine, les toutes formes de méchanceté. L'autre bord, c'est l'amour qui va régner. Hein, Corinthiens 13, la foi, l'espérance, mais c'est l'amour qui va demeurer. Les deux autres sont plus là, on n'a plus besoin. Alors, c'est ça qui est encourageant. Alors, le fait que le Saint-Esprit, qu'on l'ait reçu, qui habite en nous, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut saisir. Si nous marchons réellement avec lui, ce qui se passe, c'est qu'il peut rendre la vie à nos corps mortels, à notre ancienne nature. Il peut pas l'enlever, l'ancienne nature, mais il peut, par contre, embarquer par-dessus. En d'autres mots, il peut arriver et puis nous donner d'obéir à Dieu, de marcher avec Dieu, d'être victorieux avec Dieu. Et c'est pour cela que notre obéissance au Saint-Esprit, elle est importante, tellement importante. Et lorsque nous voulons vraiment marcher selon le cœur de Dieu, selon les enseignements de la parole, que nous voulons vraiment être des témoins pour le Seigneur, que nous voulons vraiment avoir la joie, le fruit de l'Esprit en nous, c'est lorsque nous nous engageons à vouloir marcher par le Saint-Esprit, à obéir à ses directions et être conduit tous les jours. Et non d'écouter nos mauvaises choses qui est notre chair, le diable ou le monde, nous veulent nous offrir. Faut pas se laisser dominer par cela. Tout au contraire. Alors, on peut regarder un passage qu'on connaît très très bien, mais moi je l'aime bien, puis je me tente pas de le regarder. C'est dans Galates, chapitre 5, et les versets 16 et 17. Alors, Galates, chapitre 5, des versets 16 et 17. Il nous dit ici, « Je dis donc, » c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Il dit bien, « Je dis donc, » mais un enfant ici, là. Je dis donc, là, c'est pas une farce, là, c'est sérieux, là, ce que je vous dis, là. C'est vrai, ce que je vous dis, là. C'est pas un conte de fées, ce que je vous dis, là, là. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a une guerre qui est là constamment. Il y a un qui veut prendre le pouvoir sur nous. À qui je vais céder? Comment faire pour empêcher l'autre de prendre le contrôle sur moi? Comme quand on avait lu dans Romains 7, les versets 14 jusqu'à 25, on disait que Paul avait des problèmes par rapport que quand il veut faire le bien, c'est le mal qui est là, puis quand il veut renoncer au mal, là, il y a tout le combo. Que là, dans ces quelques versets-là, C'est incroyable. Il fait pas le bien qu'il veut, puis il fait le mal qu'il veut pas. C'est-tu votre condition? Parce qu'il y a moyen de régler ce problème-là. Et c'est là que c'est un point important par rapport au Saint-Esprit. La troisième chose. Alors, si on revient dans Romains, le verset 12 à 14. Mais tout spécifiquement, je vais prendre le verset 16 pour comprendre un petit peu le contexte. Il dit ici, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quand on regarde ça comme ça, le texte, ben ça nous dit, écoutez, on peut-tu perdre notre salut? C'est une question que si je vis selon la chair, si j'ai des problèmes avec ça, si j'ai pas l'impression que le Saint-Esprit dirige ma vie, est-ce que ça veut dire que je vais perdre mon salut? Absolument pas. Mais je vais vous aider un petit peu dans la traduction pour que vous compreniez le texte, c'est ce qu'il veut dire. C'est parce que quand les traducteurs font, ils peuvent pas mettre toutes les nuances qu'il y a par rapport aux mots qu'on a là. Moi, je vais vous les mettre pour que vous compreniez le texte comme moi. Alors, si on regarde dans la traduction, ça dirait « Si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. » Milete apotneskein. Vous devez mourir. Mais là, je dis, ouais, mais c'est bizarre, ça, c'est ce genre de phrasage-là. Mais quand on regarde le verbe, à quel temps qu'il est conjugué, je ne veux pas vous faire un cours de gris ce matin, je veux juste vous amener à comprendre le texte. Alors, les conjugaisons, je pourrais dire, les temps, tout ça, c'est pas la même affaire comme nous en français quand on a appris à l'école. C'est complètement différent. C'est une langue différente avec des nuances différentes. Alors ici, pour l'infinitif, surtout quand il est présent, c'est une action qui se fait au moment, puis qui se continue. OK? Alors, il dit, en d'autres mots, moi, je vais vous le dire que c'est en paraphrasant, ça dit, si vous vivez selon la chair, vous devez être en train de mourir, et vous allez mourir. Vous êtes en train de mourir, et vous allez mourir. Vous allez continuer de mourir. C'est ça, le texte. Mais il peut pas mettre ça dans une traduction. Mais c'est juste qu'en approfondissant que c'est là, on peut sortir toutes ces nuances-là. Alors, ce qui veut dire, il ne s'agit pas ici de personnes qui sont au Seigneur, dont Paul fait référence ici, mais des personnes qui viennent à l'Église, mais qui n'ont pas encore saisi ce salut en Jésus. Oui, ils ont adhéré de tête, mais pas de cœur. Il n'y a pas eu une réelle repentance. Les personnes ont embarqué dans une croyance, une religion ou une église, où ce qu'ils ont trouvé de la joie, du plaisir, etc. Mais par contre, leur cœur n'a pas été touché. C'est seulement un endroit de plaisir et de joie. Faut penser un petit peu comme la parabole de Jésus dans Matthieu 13. Parabole du semeur. Quand Jésus est arrivé puis il expliquait à ses disciples c'était quoi cette parabole-là, il leur dit, c'est un semeur qui sort pour aller semer. Puis quand il sème, ben, il y a quelques graines qui tombent sur le chemin. Alors il dit ça, c'est des personnes quand ils entendent la parole, puis qui le reçoivent, ça dure pas longtemps dans leur cœur parce qu'il y a un combat, tout ça, après ça, ils la rejettent. Puis le diable travaille pour leur enlever ça de leur cœur. OK? La deuxième semence tombe maintenant dans les endroits pierreux. Alors, c'est sûr que des semences qui tombent dans les endroits pierreux, ça pousse vite, mais parce qu'il y a pas un sol profond, puis le soleil, ben c'est sûr, ça brûle tout de suite. Alors, Jésus disait, ben, c'est tout simplement, c'est ces croyants-là qui ont entendu la parole, mais qui l'ont su avec joie. Ils l'ont su avec joie. Puis là, tant que tout allait bien, tant qu'il n'y a pas eu de problème ou d'embûche, ils ont continué à adhérer à l'Église. Ils ont continué à se joindre aux croyants. Puis ils ont continué à faire comme eux autres. jusqu'au jour où quand les épreuves ont commencé, oui, on sait quoi cette affaire-là, on ne veut plus rien savoir de ça. Rejette complètement. Une autre partie tombe parmi les épines. Alors ça, les épines, là, oh boy, ça pique ça, cette affaire-là. Alors, imaginez, ça tombe parmi les épines. C'est quoi que ça veut dire? Ben, il disait que quand ça tombe dans les épines, ben, la semence, quand elle pousse, elle a de la misère à pousser, surtout si c'est du blé ou des choses comme ça, parce que ça accroche, puis les racines par en dessous s'entremêlent, que vous savez pas, là. Alors, qui fait qu'ils ont de la misère à sortir, puis quand ça sort, ils ont de la misère à produire du fruit, puis même, ils en produisent pratiquement pas. Alors, Jésus voulait dire par là, ça, ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie, et toutes les autres convoitises qui s'attachent à cela, ben, ça rend infructueux, ça produit absolument rien de bon. Mais tu par contre, il y en a un autre qui, lui, quand il tombe dans la bonne terre, il produit 100, 60, 30 par rapport qu'il l'a saisi du fond de son cœur. Alors, cette troisième partie-là, faut bien la saisir, que si par l'esprit, vous faites mourir les actions du cœur, vous vivrez. Et c'est là que je m'envoie mon illustration. Excusez, je dois descendre un peu parce que pour être capable de bien voir les choses. Alors, imaginez ici, ça c'est nous. La manière qu'on est composé, si on pourrait dire. Alors, on a l'esprit, on a l'âme et le corps. Tiens, on va les mettre dans le bon ordre. OK? L'esprit, l'âme, le corps. Bon. Là, l'esprit, notre esprit, qu'est-ce qui s'est passé à notre conversion? C'est que le Saint-Esprit a pris possession de notre esprit à nous. Il est rentré dans notre esprit, il a pris une place dans notre esprit, pour être plus juste, et puis il nous a régénérés. C'est là qu'il nous a donné cette nouvelle nature, cette nouvelle vie en Dieu. Il l'a mis dans notre esprit, et puis là, lui, c'est à partir de là qu'il opère. Ce qui vient influencer nos choix, il vient influencer notre conscience, il vient parler à notre esprit pour voir les choses différemment. On est régénéré, alors des choses, on est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est le Saint-Esprit qui agit dans notre esprit. Mais par contre, on a notre autre personne ici, l'âme. Oh, l'âme, elle est... C'est plus difficile un peu. Parce que l'âme, elle, c'est les pensées, la volonté, les sentiments, les émotions. Alors, elle est facilement, comment dire, influençable. Comprenez? Parce que les pensées qu'elle a vont venir affecter ma volonté et vont venir affecter mes sentiments, mes émotions. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit me parle... comme on a lu tout à l'heure, si je fais mourir les actions du corps par le Saint-Esprit, si je me laisse diriger, enseigner par le Saint-Esprit, alors là, ça va venir affecter mes pensées, ma volonté, mes sentiments, mes émotions. Comprenez-moi bien, là, c'est pas un conte de fées ce matin, on parle d'une réalité, on parle d'une chose vraie, c'est que le Saint-Esprit, il est là. Il est vraiment là. Mais il me parle. Je vais vous donner un exemple. On va prendre quelque chose que je pense que ça nous touche un petit peu tout le monde. Bon, si on regarde la télévision, il y en a ceux qui ne la regardent pas, la télévision, il doit être hors, en tout cas. La majorité des gens, on regarde la télévision. OK? Mais par contre, quand on regarde la télévision, on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses passables, puis des choses vraiment pas bonnes. Pas vrai? Mais là, nous, là, c'est la façon maintenant... je suis placé devant un choix. Est-ce que je peux me permettre de regarder ça et écouter ça, ou je dois le mettre de côté parce que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle à moi, mon esprit. Le Saint-Esprit me parle dans ma conscience parce qu'il prend aussi possession de ma conscience. Le Saint-Esprit là, il me dit, ça rentre pas dans la liste. Où reste ce frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai un choix à faire. Mais savez-vous où est-ce qu'on se plante? On écoute lui ici. Oh, je file de même. Oh, j'ai le goût. Oh, pour une fois. Oh, c'est pas grave. Hein? Comment je parlerais en mal d'un frère et d'une sœur? Pas grave. De toute façon, c'est la vérité. Ben oui, c'est de la médisance. On se convainc de toutes sortes de choses, mais pourtant, le Saint-Esprit en arrière, il te fatigue. Ben non, c'est pas ça. C'est pas selon la liste qu'on vient d'énumérer. Puis c'est pas non plus comme la parole dit. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est là qu'il faut saisir la chose. C'est que l'ennemi travaille constamment à vouloir nous faire le mal. Et la chair, constamment, elle est très à l'écoute du diable et très à l'écoute des choses du monde qui nous sont proposées. La chair aussi, la chair aussi, à sa part, elle a ses appétits, ses goûts. Je vais vous souligner une chose, différente de ce qu'on est habitué d'entendre dans les églises, mais je veux quand même le dire. Si on regarde le côté sexuel, OK? Je pense que la plupart d'entre nous, on est mariés, ou d'autres sont pas loin, mais en tous les cas, pour ceux qui sont mariés, vous savez que la vie sexuelle, c'est sûr, il y a l'amour et tout cela, mais il y a aussi les appétits du corps. Puis des fois, les appétits du corps, ils sont pas toujours corrects. OK? Alors, si à un moment donné, vous avez le goût d'être avec votre épouse, vous devez être votre conjoint, puis vous voulez vraiment passer un temps intime dans l'amour et tout cela, c'est pas le temps d'ouvrir la télévision et d'essayer de chercher des films qui sont pas convenables. Vous savez ce que je veux dire? Si vous savez que vous risquez d'avoir des problèmes, laissez la télévision fermée, puis passez plutôt un bon temps de qualité avec votre conjoint, petite soirée amoureuse, puis passez un bon temps, on se couche plus de bonheur, on passe du temps ensemble, etc. Comme ça va être beaucoup bénéfique, et de demander, et c'est toujours ça, de demander au Saint-Esprit, « Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi de repousser ça et donne-moi la victoire là-dessus, et je te donne ma soirée, et tout ce qui peut faire obstacle à ça, enlève-le, et donne-moi la victoire. Aide-moi, mon Seigneur Saint-Esprit. » Vous lui demandez, puis il va le faire. Le Saint-Esprit, là, c'est pas quelqu'un qui est là, il est prisonnier dans une boîte, puis là, parce qu'il ne sait plus, là, il peut plus rien faire. C'est complètement faux, c'est tout le contraire. Il est là pour nous aider, pas juste pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Il est là aussi pour nous rendre capables de faire ce que lui veut qu'on fasse. C'est ça, marcher selon l'Esprit. C'est ça aussi qu'il faut faire mourir les actions du corps par le Saint-Esprit. Essayez pas par vos propres forces, vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas, je vous le dis. Vous allez vous planter tout le temps à un tel point qu'à un moment donné, le diable va se servir de ça pour dire, ben, as-tu vraiment cru? Es-tu vraiment sauvé? Es-tu vraiment un enfant de Dieu? Puis là, vous allez être tourmenté pour une secousse. Alors, faites attention de ne pas vous faire avoir. Et maintenant, le corps, bien entendu. Es-tu beau, lui? Ça, un beau... Ça, mais elle connaît ce manteau-là. Ça, il m'est même familier, ce manteau-là. En tout cas, c'est le corps. Mais lui, le corps, là, c'est une victime. Il est victime, lui. Il a tout mangé des coups, lui. Il a reçu la vieille nature. Pauvre lui. Pas en plus, si l'autre décide de prendre des mauvaises décisions, c'est lui qui mange les coups. Je te dis, c'est sa victime là-dedans. Pauvre de moi. Mais par contre, lui, le Saint-Esprit est très actif. Puis tu vois, lui, son rôle, il va te convaincre. Non, fais pas ça. Laisse-toi pas aller. Fais-moi confiance. Donne-moi le contrôle de ta vie. Puis tu vas voir, ça va changer. Puis lui, le corps, il va être de bonne humeur. Il va avoir des beaux colliers. Il va donner des bons résultats. Mais la saleté qui est encore dedans est encore long pour pas l'enlever. malheureusement, mais par contre, on peut la surmonter avec le Saint-Esprit qui influence notre âme, en d'autres mots, nos pensées, notre volonté, nos émotions, et qui vient automatiquement que le corps, lui, il va obéir. Parce que même l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je tiens à Chizuti d'être moi-même rushé à pouvoir prêcher aux autres. Pas vrai? Ben oui, on peut avoir un certain contrôle sur ce corps. Pas vrai? Que le temps passe vite. Alors maintenant, je vais vous parler de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant, mais je pense que je vais juste les souligner rapidement. Parce qu'en réalité, il y en a 8. Alors, la première chose que je veux souligner avec vous, dans Jean 14, 26, l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26, OK. Alors, il dit ici, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ici? Qu'est-ce que Jésus dit que le Saint-Esprit va faire? Ben, il dit premièrement, il va nous enseigner. Alors, il nous montre le chemin qu'on doit suivre. Mais aussi nous rappelle tout ce que dit toute la parole de Dieu. Il va nous le rappeler. Mais je peux vous dire une chose en passant, que si vous voulez que le Saint-Esprit fasse cette action-là dans votre vie, comme dans la mienne, je me dois de m'entretenir de la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de la vivre chaque jour. Autrement, comment voulez-vous que le Saint-Esprit me ramène des choses, me rappelle des choses que je connais pas? Là, on tomberait au tout début avec les révélations. Mais les révélations, c'est maintenant de l'illumination parce que tout ce qui nous a été donné de savoir, on l'a dans la parole de Dieu. Alors, vous voulez avoir une vie victorieuse? Vous voulez être vraiment conduit par le Saint-Esprit? Prenez du temps, lisez la parole. Puis si pour vous, lire la parole, vous avez de la difficulté, il y a d'autres petits feuillets à côté ou d'autres livrets à côté qui accompagnent la parole de Dieu, qui vous expliquent les choses et qui vous aident à méditer. Mais prenez les moyens qui sont là à votre disposition. Mais faites-le. Prenez du temps chaque jour. Moi, j'ai une confession à vous faire. Vous me confessez, faut que je sois honnête devant vous. Si j'ai le malheur de passer ne fût-ce que deux jours, une journée, deux jours, sans lire, et passer du temps avec le Seigneur, ça devient un vrai monstre. Bon, pas le guérir, là, mais en tout cas, un petit monstre. Mais pourquoi? Parce que dans ce temps-là, je me sens extrêmement vide, je me sens extrêmement désorienté, parce que là, j'ai pas donné ma vie à Dieu, ou du moins le contrôle de ma vie pour les journées que j'avais à vivre, parce que j'en ai besoin chaque jour. Alors, c'est pour ça qu'ici, c'est important de saisir cette vie. On pourrait en parler longtemps, mais on va y aller pour être capable de couvrir notre matière. Alors, on va en dire moins possible. Une deuxième chose. Il nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Tout. Quand c'est tout, c'est tout, hein? Bon. Jean 16, verset 13. Qui dit ici. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Si on veut lire le verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, ce qu'on a ici dans les Écritures, le Saint-Esprit prend cela et il nous conduit dans toute la vérité. Mais j'ai une petite chose à souligner parce que il y a beaucoup de croyants que j'ai rencontrés au travers de mon ministère qui se sont plantés avec une mauvaise interprétation. C'est dans 1 Jean chapitre 2. Ça, c'est important parce que si vous comprenez pas ça, vous risquez de vous mettre dans les problèmes. 1 Jean, chapitre 2, et versets 26 et 27, qui dit ici, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alors, il y en a qui vont me dire, « Regarde, on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin d'enseignant, on n'a pas besoin de personne d'autre, parce que le Saint-Esprit lui nous enseigne toutes. » Ah oui, j'ai connu des gens qui me disaient ça. Ah oui? OK, puis là, il m'amenait ce passage-là, surtout le verset 27. Le verset 26, il ne me l'amenait pas, pourquoi? Je comprends pas pourquoi, mais il m'amenait le 27. Pour moi, le 26, ils l'ont jamais remarqué. Mais si vous avez bien le contexte, c'est un petit contexte, mais qui est pesant, il dit bien, « Je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent. » Contraste, le Saint-Esprit, lui, nous conduit dans toute la vérité. Très différent. Mais la vérité que nous, on va avoir pris le temps de lire chaque jour, de méditer chaque jour, et non seulement cela, mais aussi d'être venu pour se faire enseigner, soit par les pasteurs ou des docteurs ou dans des cours chrétiens, ou peu importe, vous êtes venu pour recevoir de l'enseignement. Puis je vais vous le montrer, regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Alors, parce que si je me fierais à la deuxième partie qui dit qu'on n'a pas besoin, parce que le Saint-Esprit nous enseigne toute chose, on aurait un problème avec ce passage-là ici. Dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Et les dons qui est là que je vais vous nommer, c'est des dons d'enseignement en passant. Ça a changé, c'est différent avec ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. OK? Alors, il a donné les uns comme apôtres, alors ça c'est fait. Mais il y a aussi apôtres dans le sens que ceux qui implantent des églises, des choses comme ça, on peut dire c'est des apôtres, des envoyés. Les autres comme prophètes, quand on parle de prophètes ici, on parle pas des prophètes qui vont vous dire l'avenir, on parle ici de prophètes qui, eux autres, ont reçu des révélations du Saint-Esprit lorsque c'était écrit, et qui, eux, sont là justement pour révéler aux personnes qui sont en train d'écrire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on doit croire et c'est quoi le contenu de la Nouvelle Alliance. Alors, le Saint-Esprit éclairait ces gens-là, mais aussi prophète dans le sens que si je prends la parole de Dieu et je viens vous amener la parole de Dieu, je viens vous l'expliquer par le Saint-Esprit, alors je suis en train de prophétiser. OK? Comme Luc lui-même l'avait mentionné l'autre fois. Vous avez aussi les évangélistes. L'évangéliste, c'est pas parce que je veux parler du Seigneur aux autres, je suis un évangéliste. C'est pas ça. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a un don, c'est un leader, il y a un don, il y a un amour, une passion pour les âmes, puis c'est un homme qui enseigne ces choses-là, puis il le vit lui-même, puis il entraîne les autres à faire pareil. Ça, c'est un évangéliste. Mais moi, c'est pas parce que je vais aller parler du Seigneur aux autres que moi, je suis un évangéliste. Faut se comprendre. OK? Et les autres, comme pasteur et docteur. Il y en a qui mettent ça dans cinq classes, en voulant dire cinq dons. Mais par contre, quand on regarde dans l'original, on a l'impression que c'est quatre dons en réalité. Pasteur et docteur, ça veut dire pasteur et enseignant. Parce que le mot grec, c'est le mot enseignant. Alors, pasteur et enseignant, ça veut dire que c'est la même personne, mais par contre, là-dessus, c'est divisé. Alors moi, ce que je peux vous dire, ça pourrait être aussi bien deux dons comme le même. Je voulais juste vous le mentionner dans mes réflexions. Alors, il dit ici, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissons en tous égards en celui qui est le chef, Christ. » On veut lire le verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formé un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Alors, si quelqu'un vient vous dire, « Regarde, moi, le Saint-Esprit, celui-là, il m'enseigne tout, mais je regarde, Thomas, c'est ici dans l'affaire-là. » C'est pas ça du tout. On a tous besoin des uns des autres et des dons des uns des autres. Alors, ça là, je vais le passer vite. Il nous équipe pour le ministère, pour le service et le ministère. Alors, je pense que vous êtes tout au courant de cela. Vous juste à regarder dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Je vais le prendre en os s'il y en a qui ne le savent pas, mais je pense que vous êtes tout au courant de tout cela. Alors, tous les dons qui sont énumérés ici et que, qu'on forme le corps de Christ, on a tout un membre dans le corps de Christ, on sert tout à une unité quelconque. Il nous aide aussi dans le témoignage de notre foi en Jésus. 2 Timothée, chapitre 1, les versets 7 et 8. 2 Timothée 1, les versets 7 et 8. Il dit ici, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Qui fait ça? Le Saint-Esprit fait ça. Alors, n'ayons pas peur. Je vous dis encore, puis retenez-les, c'est la clé. Quand vous avez à parler du Seigneur à quelqu'un d'autre, que ce soit pour apprendre quelqu'un ou que ce soit pour annoncer l'Évangile à quelqu'un, demandez au Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse, conduis-moi dans mes paroles, donne-moi ce que tu veux que je dise, Seigneur, toi qui connais le cœur de la personne et toi ce que tu veux faire dans sa vie, moi je le sais pas, toi tu sais, Seigneur Saint-Esprit, toi qui sondes les reins et les cœurs, comme avec le Seigneur Jésus et le Père, je te demande dans ta grâce, aide-moi. Et le Saint-Esprit va le faire. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et je peux vous dire, il ne manque pas. Il ne manque jamais. Lorsqu'on est sincère de cœur. OK? Puis il y en a un autre texte qu'on pourrait regarder, mais on ne le regardera pas parce qu'à cause que le temps nous manque, c'est dans Matthieu 10, les versets 19 et 20, où ce que, quand les disciples, Jésus les avait avertis qu'ils étaient pour être livrés, qu'ils n'avaient pas s'inquiéter de ce qu'ils étaient pour dire, mais qu'à l'heure même, le Saint-Esprit était pour leur dire, quoi dire à ce moment-là, que c'est pas eux qui étaient pour parler, mais le Saint-Esprit. Cinquième chose, il nous rend capable de vivre une vie remplie d'amour et de sainteté. Dans Romains 5, 5, c'est marqué que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a procuré en nous l'amour. Mais il ne fait pas juste ça. Oui, il fait aussi la sainteté qui produit en nous. On peut voir ça dans Romains, chapitre 1, les versets 3 à 7, mais on ne lira pas. Mais je vais vous en citer un au moins par cœur. Il produit en nous un fruit. Galates 5, 22 qui dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Vous comprenez? Un autre conseil que je veux vous donner en passant. Prenez l'habitude d'essayer de mémoriser des versets. Essayez de travailler de façon pour écrire dans votre cœur la parole de Dieu en mémorisant pour que le Saint-Esprit là, l'intériorise vraiment puis que ça reste dans votre esprit aussi, pas juste dans votre cœur. Puis dans ce temps-là, le Saint-Esprit va se servir, il te ramène à ton esprit ces choses-là. Puis là, le Saint-Esprit nous parle avec la parole de Dieu. Comprenez-moi, très important. Il nous transforme aussi à l'image de Jésus de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, les versets 17 et 18. Une septième chose qu'il fait aussi, il nous aide dans nos prières. Ça, je veux m'arrêter juste un petit peu dans Romains 8. Le texte qu'on a lu ce matin, Romains 8, et les versets 26 et 27. Alors, il dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit, demandez-lui qu'il vous aide à prier, puis il va le faire. Éphésiens aussi en parle par rapport à cela. Éphésiens 6, le verset 18, par exemple, quand vous le lirez plus tard, qui nous dit, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Apprenez à ce que le Saint-Esprit prenne possession de notre intelligence, de tout notre être, puis on lui demande « Conduis-moi dans la prière. » Lui, il sait, il connaît le cœur de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu, il sait quoi demander. Puis quand on sait pas, ben Saint-Esprit fait le job. Et Saint-Esprit s'en occupe, et c'est lui qui va intercéder pour nous auprès du Père. Et la dernière chose ici, il est aussi notre consolateur, notre autre consolateur. Vous savez, dans le mot, dans l'original, le mot grec qu'on a ici pour consolateur, c'est le mot parakletos. Un parakletos, c'est celui qui est appelé auprès de, à côté de. Parakletos. C'est deux mots grecs, avec kaléo, kletos, kaléo, qui veut dire appeler, puis para, qui veut dire selon ou accompagnement de. OK? Alors, c'est pour ça que le mot, on utilise parakletos, qui veut dire qui est appelé auprès d'eux, à côté d'eux. Alors, en d'autres mots, le parakletos, c'était comme un avocat ou quelqu'un qui prenait la défense de la famille, qui était très lié avec la famille, de cœur, et puis qui avait à cœur la famille, qui prenait les intérêts de la famille, puis il défendait. Quand ça passait en cours, des choses comme ça, il prenait la défense de la famille. Un parakletos. Mais un parakletos, c'est un avocat, c'est un consolateur. C'est pour ça qu'on peut interchanger les deux mots, parce que Jésus est appelé aussi avocat. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, que Jésus est appelé un avocat. C'est le même mot, parakletos. Alors, c'est pour ça que ça va ensemble, ces deux-là. Alors, en conclusion, soyons attentifs aux enseignements et à la direction du Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est que vous voyez ici, l'esprit, l'âme et le corps, c'est la clé. Prenez conscience de ce qui est là. Et dites-vous bien que Dieu ne fera pas à votre place ce que vous devez faire. Alors, si vous voulez vraiment connaître une vie victorieuse avec le Saint-Esprit, si vous voulez vraiment marcher par le Saint-Esprit, connaître enfin une vie victorieuse où ce que le diable n'a plus aucun pouvoir et aucun accès auprès de vous, c'est lorsque vous allez marcher de cette manière-là. Là, on va terminer par un mot de prière. Alors, Père, on est devant toi ce matin. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as montré dans ta parole concernant ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as à cœur et que tu veux nous amener de toujours de plus en plus loin dans notre compréhension et dans notre cheminement. Alors, ce qu'on veut te demander, Papa d'amour, ce que nous avons entendu ce matin, donne-nous maintenant qu'on comprenne pas seulement de notre tête, mais qu'on comprenne aussi de notre cœur. Donne-nous que ça pénètre en nous et donne-nous qu'à partir de maintenant, quand on va quitter cette salle, qu'on puisse vraiment mettre ça en pratique. Utiliser vraiment ces moyens que tu nous donnes dans ta parole pour être des personnes victorieuses, des personnes heureuses, des personnes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que tout cela vient de toi, Seigneur. Alors que ton nom soit béni. Amen.